Laudetur Jesus Christus.
Les Gabonais appelés aux urnes pour désigner leur président ce samedi, 19 mois après la chute de la dynastie Bongo. L'Église exhorte à faire de ce rendez-vous électoral un tournant historique pour le pays. Le chef de la transition, le général Brice Oligui Nguema, fait figure de grand favori. Nous l'entendrons. Les bourses rechutent en Asie, signe d'inquiétude face à l'offensive commerciale de Donald Trump. Le flou demeure quant à la stratégie voulue par Washington. En revanche, sur le dossier du nucléaire iranien, le président américain se montre menaçant et impose son tempo à Téhéran. Des pourparlers entre les deux pays doivent avoir lieu demain à Oman. Un millier d'anciens pilotes et de réservistes israéliens dénoncent dans une lettre la guerre qui n'en finit pas à Gaza et exigent le retour des otages. Leur hiérarchie annonce leur renvoi. Et puis dans notre dossier en fin de journal, conversation avec un témoin privilégié de l'Église catholique du Pacifique Sud. Monseigneur Calvé achève sa mission d'archevêque de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, où il est resté plus de 40 ans. Il nous racontera les grâces et les difficultés de ce territoire plein de contrastes.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. 19 mois après la chute de la dynastie Bongo, les Gabonais sont appelés aux urnes demain pour élire leur futur président. 8 candidats sont en lice, dont Brice Oligui Nguema, actuel chef de la transition et grand favori de ce scrutin. À l'origine du coup d'État du 30 août 2023, le militaire avait promis de rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans. Le général gabonais bénéficie aujourd'hui d'une grande popularité et de nombreux soutiens au sein de la classe politique. S'il se présente comme le candidat du peuple, il a su démontrer des capacités de stratège politique, selon l'analyste politique gabonaise Lysiane Neyer Kenga.
Le principal enjeu de ce scrutin, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. En effet, nous sommes en transition depuis 19 mois déjà, à la suite d'un coup d'État militaire. Le candidat Brice Oligui apparaît comme étant favori de cette élection, déjà parce que c'est la figure de la libération, c'est lui qui a présidé les opérations qui ont conduit à ce coup d'État du 30 août. Le général Oligui Nguema s'est présenté d'abord comme étant un militaire et il a souvent répété que ce n'était pas un homme politique. À observer sa campagne, je pense qu'il a démontré des capacités de stratège politique qu'on ne lui connaissait pas et qu'on doit lui reconnaître. Au début de sa campagne, effectivement, l'opinion a été un peu choquée de voir autant de PDGistes entrer dans ces équipes de campagne. Mais nous avons également vu que plus la campagne a évolué, plus ces figures se sont faites de plus en plus discrètes. Le message derrière que je pense qu'a voulu envoyer le général Oligui, c'était de casser cette image de militaire strict, autoritaire. Je pense qu'il a voulu montrer qu'il est capable de travailler avec tout le monde tout en gardant sa ligne et ses ambitions intactes.
Des propos recueillis par Myriam Sandouno. Et puis il y a quelques jours, les évêques du Gabon ont lancé un appel pour une élection apaisée, transparente et respectueuse de la volonté populaire. Dans un message pastoral signé du président de la conférence épiscopale du Gabon, l'Église exhorte à faire de ce rendez-vous électoral un tournant historique pour le pays. Inquiétude et incertitude sur les marchés financiers. La bourse de New York a fini en repli hier soir après un bond historique la veille. Dans le sillage de Wall Street, les bourses asiatiques ont lourdement rechuté ce vendredi matin. Entre la volte-face de Donald Trump à propos de ses tarifs douaniers réciproques et la confirmation que la Chine serait, elle, très lourdement taxée, les investisseurs ne savent plus sur quel pied danser. Et les signaux envoyés hier par le président américain ne devraient pas les aider. À New York, Loïc Loury.
La transition aura un coût pour les Américains. Il y a des problèmes en perspective. Donald Trump reconnaît que ses tarifs douaniers n'ont pas que du bon. Mais à terme, assure le président, ce sera, dit-il, une très belle chose. On est très heureux de la façon dont le pays se porte. On essaye de faire en sorte que le monde nous traite plus justement. Ça aurait dû être fait il y a 25 ans, mais ça n'a pas été le cas. Aucun président n'en avait eu la volonté. Ça ne pouvait plus durer. Le milliardaire s'exprimait lors d'un conseil des ministres en forme de célébration autosatisfaite et à laquelle tout le monde pouvait participer. Rien d'inhabituel sur les marchés, assurait ainsi le ministre des Finances, malgré des cours en forme de montagne russe. La Maison-Blanche fait comme si de rien n'était et sans préciser sa stratégie, s'il en est une, 145% de taxes contre la Chine, 10% pour le reste du monde, sans parler des tarifs réciproques dans la balance. Quant aux négociations négociations promises. À ce sujet, on n'en connaît ni les contours, ni les avancées, mais 75 pays se seraient manifestés et tout le monde se réjouit. Donald Trump veut passer un accord. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
L'administration Trump rompt avec celle de son prédécesseur Joe Biden en tout point, y compris sur le dossier iranien. En début de semaine, le président républicain a annoncé la tenue de négociations directes avec Téhéran pour trouver un nouvel accord sur le nucléaire. 7 ans après la sortie de Washington d'un précédent accord et la mise en place de sanctions américaines, sanctions économiques. Une annonce surprise accompagnée d'une menace militaire et d'un calendrier serré. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump exerce une pression maximale sur le régime islamique iranien, fragilisé par sa situation économique. Analyse de Clément Terme, chargé d'enseignement à l'université Paul Valéry à Montpellier en France, spécialiste de l'Iran.
Il s'agit tout simplement de créer un rapport de force pour obliger d'une part la partie de la République islamique d'Iran à venir discuter. Ça, c'est le premier objectif et celui-là, il est atteint. Puisque c'est Donald Trump qui a annoncé la tenue de discussion et les Iraniens ont été obligés de confirmer. Donc l'idée, c'est vraiment de poser cette alternative, ce que fait l'administration Trump, entre un accord aux conditions américaines ou la guerre. La stratégie iranienne, c'est de demander des concessions maximales également aux Américains et en retour, levée maximale des sanctions. Donc ils vont essayer d'obtenir encore plus de levée des sanctions par rapport à ce qu'avait fait Biden. Mais l'idée vraiment du côté de Trump, c'est de ne pas reproduire la stratégie des négociations sans fin indirectes qui ont eu cours à l'époque de l'administration Biden entre 2021 et 2024. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un processus court qui aboutisse. Le problème, c'est dans la stratégie américaine, le caractère peu probable d'un résultat positif est lié au fait que les demandes sont maximales, mais que le délai imparti à la négociation, le temps de la négociation annoncée est très court. Le délai de 2 mois est évoqué côté américain.
Et malgré les pressions américaines, l'Iran déclare ce matin vouloir donner une véritable chance à la diplomatie lors de ses pourparlers prévus à Oman samedi. Paris annonce par ailleurs être en contact étroit avec les États-Unis et soutenir les efforts diplomatiques américains. Le président français qui remet la perspective d'une solution à 2 États au Proche-Orient au goût du jour. Emmanuel Macron a déclaré lors d'une interview mercredi que la France pourrait reconnaître l'État palestinien. Objectif fixé au mois de juin lors d'une conférence co-présidée par Paris et Riyad prévue à New York. Conférence qui vise également la reconnaissance d'Israël par tous ceux qui défendent la Palestine. En attendant, l'armée israélienne affirme s'être emparée de vastes secteurs de la bande de Gaza, tandis que dans les rangs de l'armée de l'air, 1 millier d'anciens pilotes et de réservistes haussent le ton. Dans une lettre publiée hier, ils exhortent le gouvernement à accorder la priorité à la libération des otages à Gaza, même si cela implique de mettre fin à la guerre contre le Hamas. On en parle avec Julia Galantia à Tel Aviv.
Effectivement, plusieurs pilotes de réserve de l'armée de l'air ont signé une lettre appelant à un cessez-le-feu immédiat pour sauver les otages, quitte à suspendre les combats. Le texte, signé par d'anciens et actuels pilotes de l'air, explique, je cite, « Actuellement, la guerre sert principalement des intérêts politiques et personnels et non sécuritaires. Seul un accord peut ramener les otages sains et saufs. » Fin de citation. Je rappelle que 59 Israéliens sont encore aux mains du Hamas, dont la moitié aurait été tuée en captivité selon l'armée. L'armée qui a exclu ses signataires de ses rangs, précisant que les réservistes peuvent signer des lettres d'opposition à la guerre à condition de ne pas utiliser leur statut de militaire. Tzahal insiste sur le maintien de l'armée en dehors des différends sociaux et se déclare déterminé à agir fermement contre les réservistes qui contestent la mission. A noter qu'à aucun moment les signataires ont menacé de déserter mais ont exprimé leur opposition à la guerre telle qu'elle est menée aujourd'hui. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
Et le commandant des forces aériennes israéliennes a riposté en annonçant le renvoi des réservistes encore en fonction. Près de 200 organisations indigènes et environnementales du monde entier ont demandé hier à la présidence brésilienne de la COP30 de s'engager à mettre fin aux énergies fossiles. Lors d'une réunion des peuples indigènes des Amériques et d'Océanie à Brasilia, les ONG ont remis une lettre à la présidence de la conférence sur le changement climatique prévue en novembre au Brésil. Ils exhortent à soutenir les appels à bloquer les nouveaux projets d'exploitation pétrolière et à réduire rapidement de manière ordonnée et équitable la production d'hydrocarbures dans le monde, principale cause du réchauffement de la planète. C'est un territoire mélanésien où aucun pape ne s'est jamais rendu. Le diocèse de Nouméa en Nouvelle-Calédonie s'apprête à changer officiellement d'archevêque ce samedi à l'orée de la Semaine Sainte. Archevêque de Nouméa depuis 1981, Monseigneur Michel Calvé, père mariste aujourd'hui âgé de 81 ans, y a la charge de 140 000 fidèles. Son successeur, Monseigneur Sean Poe, sera installé demain lors d'une messe en la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa en présence du nonce apostolique en Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifique. Il sera le premier océanien nommé à cette fonction, signe d'une église catholique locale de plus en plus inculturée. Un travail patient et exigeant qu'a conduit sans relâche Monseigneur Calvé durant ses 43 ans d'épiscopat aux grâces nombreuses, mais non sans difficultés, comme les récentes violences ayant émaillé le territoire français l'ont montré. Il nous raconte ce matin les blessures et les ressources innombrables de l'archipel où l'évangile est arrivé par les missionnaires maristes peu avant la prise de possession française en 1843.
Le territoire est bien sûr concerné par la sécularisation qui est forte et la présence d'une société moderne. Même s'il y a une vie traditionnelle, la présence d'une société moderne fait une pression considérable. Mais on peut dire que la participation à la vie chrétienne est quelque chose qui continue à se développer et qui quelquefois même étonne les gens qui viennent de l'extérieur. Alors bien sûr, on n'a pas d'appareil de mesure pour savoir quelle est la profondeur de l'évangélisation. Mais ce qui est admirable, c'est que dès la première génération au XIXe siècle, eh bien, il y a eu des chrétiens qui étaient exemplaires. Et donc c'est ça qui est un encouragement.
En ces plus de 40 ans de présence, quels ont été les défis majeurs que vous ayez eu à affronter ?
Alors il y a les défis qui sont les situations normales d'un pays qui a du mal à faire un développement pour l'ensemble de sa population et très particulièrement la jeunesse. Un certain nombre de problèmes ont été résolus. Par exemple, il y a dans les années 80, 84, 88, on a eu des moments difficiles. Mais on a peut-être aussi un peu oublié les jeunes qui allaient bien, ceux qui étaient scolarisés, quelle que soit leur origine, qu'ils soient mélanésiens, qu'ils soient européens, qu'ils soient polynésiens, cela, ça pose pas de problème. Ceux qui posent des problèmes, c'est ceux qui sont plutôt déstructurés, c'est-à-dire qui, avec le mouvement de l'exode rural, avec le changement des valeurs, les jeunes qui perdent leurs repères. Et ça, c'est redoutable, parce que c'est en même temps une masse de manœuvres qui peut être utilisée par certains pour arriver à leur fin, c'est-à-dire pour essayer de prendre le pouvoir.
En résulte les émeutes de 2024, notamment contre les églises. Comment aujourd'hui les fidèles s'en sont-ils remis et les blessures commençaient à être pansées ?
Alors, les fidèles s'en sont remis et se sont aperçus que les églises étaient les leurs, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui se sont occupés de garder leurs églises, quelquefois jour et nuit, quelquefois encore maintenant, parce qu'il y a encore des jeunes qui ont été lancés dans ces opérations un peu désespérées et qui continuent, croyant bien faire, à mettre le feu, à détruire des choses, alors que, en fait, ils ont du mal à comprendre le fonctionnement de la société moderne, c'est-à-dire une société dans laquelle, d'abord, tout n'est pas possible immédiatement, où il y a des mécanismes économiques qu'il faut savoir analyser, et cette complexité, eh bien, ne leur a pas été expliquée. Et donc, on a beaucoup à faire.
Cette médiation est possible car l'église locale néo-calédonienne est de plus en plus inculturée. Jusqu'où l'est-elle devenue aujourd'hui ?
Alors, c'est un travail de longue haleine qui a été fait par toutes les églises avec les traductions dès les premiers temps de la mission de l'église. Mais il y a eu les traductions, par exemple, des catéchismes dans les différentes langues. Et c'est un défi. En Nouvelle-Calédonie, vous avez 25 langues différentes, langue mélanésienne. Et la langue du Pacifique le plus parlée en Nouvelle-Calédonie, c'est la langue wallisienne. On a aussi une communauté vietnamienne. Donc on utilise beaucoup de langues différentes. La question des langues, la question des cultures plus profondément. On a eu un moment qui a été particulièrement riche de réflexion à ce sujet. Ça a été au tournant du siècle, la préparation, le déroulement et puis l'utilisation du document Ecclesia Oceania après le synode spécial pour l'Océanie, synode convoqué par le pape Jean-Paul II pour l'Océanie, où était présent la totalité des évêques et responsables de juridiction de l'Océanie. Ça a été un moment qui était passionnant de l'évangélisation et de l'inculturation véritable, c'est-à-dire dans la profondeur de l'évangile et en prenant les cultures locales au sérieux.
Interrogé par Delphine Allaire, Monseigneur Michel Calvé, archevêque de Nouméa depuis 1981, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci pour votre écoute. L'actualité en langue française revient à 13h, heure de Rome. Belle matinée à toutes et à tous.